Les amis, désolé pour les bruits un peu agressifs du micro. C'est pas mon micro d'habitude, donc j'ai dû faire avec ce que j'avais. Et puis voilà, j'espère que ce sera quand même agréable. Restez, s'il vous plaît. Voilà.
On est le 16 mars 2025. Faut que je révise pour. Faut que je révise. Je me suis dit j'allais réviser. Sauf que, en fait, cette matière, je l'aime pas. Voilà, c'est phonétique. Ceux qui ont fait de la LSER anglais, vous savez, la phonétique. Moi, de base, c'est une matière qui me déplaît pas. Sauf que là, c'est pour un CM qui vraiment est nul, avec une prof nulle. Vraiment, je recommande pas l'expérience. Alors que en L1, j'avais phonétique, en TD, et enfin, j'avais pas de CM pour ce cours-là en TD. En L1, mais en TD, en L1, j'avais une prof qui était adorable, et vraiment, même si c'était dur, parce qu'on va pas se mentir, c'est pas facile la phonétique, même si c'était dur, franchement, je kiffais le cours. J'adorais aller en cours, alors que c'était le matin et tout, on était fatigué, enfin bref. Je devais me lever à 6h et tout. Le cours me plaisait. Vraiment, j'étais pas en mode, oh là là, vas-y, ça me saoule. La prof était adorable. Là, on est coincé avec une prof qui nous parle mal, qui son cours il n'est pas passionnant déjà de base. Enfin, fais-toi un peu aimer quand même. C'est-à-dire ton cours il est pas ouf et tu rajoutes sur le. Enfin bref, j'ai commencé à faire une plaidoirie sur le fait que ma prof est nulle, alors que de base je suis juste venue parler des destinations parce qu'on les a gagnées. Et oui d'ailleurs on a gagné les destinations. Ouais. Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode 2 de The Move Report. Parce que oui, aujourd'hui, on va encore parler de plein de choses. On a encore beaucoup de choses à évoquer. Et encore plus par rapport au fait que... Attendez, j'ai bugué parce que j'ai reçu une notification de RMC et j'ai lu le nom de Retailleau et en fait, je vais même pas daigner lire ce qui est écrit dessus. Pourquoi j'avais envie de faire un épisode 2? Bah déjà, parce que faut bien faire un épisode 2. Au bout d'un moment, c'est une série que j'ai commencé, vous pouvez... Voilà, continuer, mais aussi parce qu'il s'est passé tellement de choses entre l'épisode 1 et maintenant que il faut que j'en parle. Il faut que j'en parle, vraiment. Aujourd'hui, pas beaucoup de sujets, mais c'est deux gros sujets sur lesquels on aura beaucoup de choses à dire. On va d'abord parler de l'arbitrage en Ligue 1 et de ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de tensions ces derniers temps. Il y a des tensions entre les clubs, le corps arbitral, les directions, les supporters, il y a des tensions de partout. Entre la Ligue aussi, enfin, la Ligue 1, c'est très tendu. En ce moment, c'est extrêmement tendu. Et on va en parler, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses. Je parle pas juste de petites tensions que tu sens à gauche à droite. Il s'est passé des choses, vraiment. Et ensuite, on va parler destination, évidemment, parce que la France a remporté destination hier face à l'Écosse. Et c'était pas un match facile, loin de là. J'ai peut-être tapé mon micro, là. Je ne referai pas ma phrase. C'est tant pis pour vous. Je disais, la France a remporté les Six Nations en battant l'Écosse hier soir. C'était quoi le score déjà? 35 à 16? 35 à 17? 35 à 16? Bon, bref. Je vous le redirai après. Mais voilà, on va en parler. On va parler des joueurs qui m'ont le plus marqué parmi ceux qui ont été sélectionnés en équipe de France. On va parler... Je suis une femme en deuil. La blessure de Dupont. On va en parler. On va en parler. Il y a beaucoup de choses à dire là on va parler. Il y a pas beaucoup de sujets, mais il y a beaucoup de choses à dire. Alors, commençons d'abord par la Ligue 1. La Ligue 1, ce championnat. The Farmer League. Alors, on n'est pas mauvais en Coupe d'Europe. Hein. Franchement, là, en ce moment, il y a quoi? Non, quoique. Si, non, ça va. Il y a Lyon et il y a Paris. Il y a le pire club. Il y a les pires clubs, wesh. Je suis en train de me rendre compte. Eh bref, attends, on n'est pas là pour parler des Coupes d'Europe, on est là pour parler du championnat français. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pourquoi c'est la zizanie? Pourquoi il y a des tensions de partout? Pourquoi tout le monde est énervé contre tout le monde? Pourquoi tout le monde est sanctionné? Pourquoi il y a des tensions entre entraîneurs, ligues, directions, etc. Je vais vous expliquer. Disclaimer, moi j'en ferai peut-être un au début, mais si vous entendez des bruits de moi qui parle un peu trop près de mon micro, des P qui sont... des P. J'ai 45 ans, ok? J'ai 56 ans, c'est bon. Vous entendez des P ou des B qui sont prononcés de manière un peu sauvage, c'est parce que c'est mon micro de con d'écouteur d'iPhone, ok? Mon micro est encore déchargé et je n'ai pas retrouvé le chargeur. Donc j'ai ce micro à la con et il fera le taf. Je l'aime beaucoup, ok? Je vais essayer de l'ajuster pour faire en sorte que ce soit pas trop violent et que quand même vous m'entendiez bien. Voilà. Donc voilà, si au début il y a quand même eu des bruits pas très agréables à l'oreille, du genre des P qui explosent. des P qui explosent. Bref, c'est bon, vous avez compris. Alors, la Ligue. la Ligue, hein, qu'est-ce qui se passe? Déjà, tout commence par des critiques envers le corps arbitral par l'Olympique de Marseille. Voilà, il faut savoir déjà que cette saison, on sort d'une saison 2023-2024 qui n'est pas fameuse. Et donc voilà, on a voulu se reconstruire. Donc voilà, nouvelle direction, nouvel entraîneur. Bon, on a toujours le même président, mais on n'a pas le même directeur sportif. On a un nouvel entraîneur. Voilà, tout est un peu nouveau. Et voilà, donc on a une nouvelle mentalité, on a de nouveaux joueurs. Voilà, rien n'est pareil. Et donc là, on a adopté une mentalité qui dit qu'on va plus laisser faire en cas de scandale arbitral ou que sais-je. On va plus laisser faire, parce qu'avant, on fermait un peu nos bouches, on se taisait un peu, on disait, bon, tant pis, c'est pas grave, ça va pas en notre faveur, mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? On peut pas dire grand-chose. Donc bref, nouvelle saison, nouvelle mentalité, donc, qui dit nouvelle mentalité dit, on va plus se laisser marcher dessus. Le 18 décembre 2024, parce que oui, j'ai noté, oui. 18 décembre 2024, on fait match nul contre Lille 1-1. Je crois que c'était au Vélodrome. Ou c'était à Lille. Je sais plus. Non, update. C'était pas le 18, c'était le 14. c'était pas du tout le 18. Sorry, not sorry. Évidemment, avant ce match-là, il y a déjà eu des critiques envers l'arbitrage. Mais en fait, ce match-là, là, ça a été, on va dire, le déclic de vraiment la nouvelle mentalité qui se met en place. C'est vraiment le on va plus laisser faire, peu importe ce que vous nous dites, s'il y a des critiques à faire, on va les faire. C'est-à-dire, avant c'était juste en mode oh mais c'est pas gentil ce que vous avez fait quand même. Là c'est vraiment au bout d'un moment j'ai failli péter mon ordi, ça va pas ou quoi, plus jamais je fais ça. Après l'article d'Eurosport, l'arbitre de la rencontre Willy de la Jode a dû quitter le terrain sous escorte et sous la bronca du Vélodrome, parce que, voilà. Quand je vous ai dit, c'est un travail d'équipe. Il y a la direction, les joueurs et les supporters. Donc après le match, il y a eu plusieurs critiques qui ont été faites de la part de De Zerbi, donc notre coach. Comme quoi, il devait avoir pénalty, il n'y a pas eu assez d'avertissement auprès des défenseurs lillois. Enfin, plusieurs petits points à mettre au clair, comme ça, qu'il a voulu souligner. Et évidemment, il y a eu un contraste intéressant. Aussi, le coach lillois qui a fait des critiques, mais c'était plus posé. Vous voyez ce que je veux dire? La manière de le dire était plus posée que la manière qui a été utilisée par De Zerbi. Bon, après, De Zerbi, il n'est pas allé choper l'arbitre par le callback non plus, pas abusé, mais bon, d'ailleurs restez jusqu'au bout, on va en parler, hein, des entraîneurs qui s'en prennent physiquement aux arbitres, on va en parler. Quelques jours plus tard, t'as le président de l'OM qui se plaint en conférence de presse et qui dit que, certes, c'est un des métiers les plus difficiles du foot et qu'il faut le respecter, mais il réclame quand même un peu plus de cohérence. Parce que t'as certaines décisions qui sont prises pendant un match, à ton encontre, puis après tu vas voir un autre match, arbitré par la même personne, et il prend des décisions différentes parce que... oui, machin. Bah, frérot, sois cohérent dans tes décisions. Si dans un match, tu prends une décision, mais que dans l'autre, tu la prends pas, va falloir revoir tes règles. C'est exactement ce qu'il dit. Il parle de cohérence d'un match à l'autre, comme pour l'utilisation de la VAR qui change d'un match à l'autre. Il faut plus de cohérence. Ce que je condamne, c'est le manque de décision égale. C'est des mots qu'il a dit en conférence de presse. Donc voilà, ça c'est, encore une fois, juste le début. Je vais pas vous faire toutes les critiques envers le corps arbitral qui ont été faites durant les journées, parce que en vrai, il y en a beaucoup, et même avant le 15 décembre, il y en avait depuis le début de la saison. Mais, en fait, plus ça avance, faut retenir ça. Plus ça avance, plus Pablo Longoria en a marre. Plus, plus ça avance, plus la tension elle monte. En fait, c'est ça. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, on en arrive à un moment donné à un point culminant de cette histoire, qui est la défaite contre Auxerre. 3-0. J'ai honte, hein. J'ai vraiment honte. Bah, après, Auxerre, c'est une bonne équipe. Je peux pas dire que Auxerre, c'est une mauvaise équipe après qu'on ait perdu 3-0 aller et retour. Bon, défaite 3-0 au Vélodrome, c'est la honte, on baisse la tête, sauf lui. Oh, lui, il baisse pas la tête. Lui, il baisse pas la tête, il va dans les vestiaires, il pète un plomb. Oh, faut vraiment retenir ce détail, il est dans les vestiaires de son stade, avec son staff. Donc il pète un plomb dans, entre guillemets, son intimité. Il pète son câble, il met des coups de pied dans les boîtes, des conneries, des il pète un plomb. C'est pas c'est qui le monsieur, mais un gars de la sécu ou un gars de son staff qui prend une caméra parce qu'il voyait qu'il y avait une caméra qui le filmait, qui baisse la caméra. Donc ouais, il se pousse, il fait non, tu... regarde-moi dans les yeux, corruption. Parce que oui, dans son pétage de plomb, en fait, il a pas juste pété un plomb, il a pas juste tapé dans des boîtes, il a vraiment crié comme quoi la Ligue 1 c'était une ligue corrompue, voilà. Sauf que, les mots ont des conséquences. Donc, convocation. Voilà. Et en gros, il s'est défendu en disant que, comme il n'est pas français de naissance, il n'est même pas français, il est juste espagnol, quoi. Pour lui, corruption, c'est pas, genre, le sens qu'on connaît, nous, les Français. Pour lui, corruption, c'était, en gros, favoritisme. Voilà. C'est une préférence d'une équipe à une autre. C'est pas le mot corruption que nous on connaît avec l'argent, etc. Mais quand même. Quand même. Mais bon, moi, je suis quand même du côté de Longoria. Je suis désolée, je ne peux pas être... En fait, j'ai vu la vidéo. Je ne peux pas être d'un autre côté que de son côté après avoir vu la manière dont il a pété un plomb. Je peux pas ne pas être de son côté. Je suis désolée, je ne peux pas, I cannot let my president down, je ne peux pas. Donc voilà, le lendemain, il s'est calmé, il s'excuse, etc. Mais les excuses, c'est un peu trop tard. Donc, convocation, et qui dit convocation, dit forcément sanction. Enfin, surtout sanction, parce que là, en fait, il y avait pas d'espoir, en fait. On savait tous qu'il allait se faire sanctionner. Mais en fait, même s'il s'excuse, et c'est un point que j'ai oublié de préciser, même s'il s'excuse... Il retire pas ce qu'il a dit sur l'arbitrage. C'est ça qu'il dit. Il dit je retire le mot corruption que j'ai utilisé parce que c'est pas forcément le sens que j'ai voulu utiliser, mais je ne retire pas le fait qu'il y a un gros problème d'arbitrage dans cette ligue. Bon, t'avais ce qui s'est passé après. En fait, j'hallucine encore. En fait, j'hallucine. Il y a tout. Les arbitres français qui ont porté plainte. Tout. En fait, quand je dis tous les arbitres français, c'est vraiment tous les arbitres français qui ont porté plainte contre Pablo Longoria. Il a genre un bail de genre 150 plaintes. Mais c'est Pablo Escobar ou c'est Pablo Longoria? Bon, bref, mis à part ces plaintes, il y a eu évidemment la sanction. Suspension de 15 matchs qui va donc l'empêcher d'accéder aux bancs touches, aux vestiaires. Au couloir, là où il a pété son câble. Donc bon, voilà. 15 matchs, ça fait jusqu'à... je sais plus. Sachant qu'il a été condamné le 26 février. 15 matchs. J'ai la flemme, calculer. On joue une fois par semaine, les gars, calculer. Cette suspension, elle se rajoute aussi à une suspension qui a déjà eu lieu, mais pas... À lui, je sais pas parler. Suspension de 15 matchs, elle se rajoute à la suspension d'un autre dirigeant qui est nul d'autre que Mehdi Benatia. Et lui, je vous en ai déjà parlé dans l'épisode 1. Directeur du football de Marseille qui a été suspendu 6 mois dont 3 mois ferme et 3 mois avec sursis pour rien. Voilà, je le dis, pour rien. Voilà, il a été suspendu pour rien. Voilà, je le dis. Non mais les excuses. Les raisons principales ce serait que il ait eu un comportement pas adapté quand il a critiqué le corps arbitral pendant un match de Coupe de France, alors que l'autre a littéralement attrapé le bras de l'arbitre. Voilà, mais ça, apparemment, il s'est pas trop senti menacé, hein, quelqu'un qui t'attrape le bras, oh, c'est pas... Par contre, un arabe qui te regarde dans les yeux... Pardon, je dérape. Mais je trouve ça quand même scandaleux, le fait que lui, il s'est fait condamner... Enfin, il s'est fait condamner, calme-nous. Il s'est fait suspendre 6 mois pour un truc qu'il n'a pas fait. Alors oui, il a été énervé, il a été en colère. Mais comme beaucoup de gens, 6 mois pour avoir été en colère alors que l'autre a littéralement attrapé l'arbitre par le bras. Et il a rien eu du tout. Quoique si, non. Il a eu une suspension, mais de 1 mois, quoi. Ouais. Deux poids, deux mesures, quoi. Et évidemment, comme c'était pas assez, il devait attraper un autre. Ils ont dit, jamais 2 en 3. Voilà. Fabrizio Ravanelli, notre conseiller sportif et institutionnel. Lui aussi s'est fait suspendre. Le pauvre alors qu'il est super discret. Bon, il a une personnalité un peu... Voilà, mais il se fait jamais remarquer. Non, parce que lui aussi, il a tenu des propos pas très sympathiques envers les arbitres. Allez, 3 matchs. Donc là, ça nous a condamnés. 3 dirigeants. On va ramener qui, là, sur le banc de touche ? On va ramener Basile Boli. Enfin, bref. C'est dingue, hein. C'est dingue. Et donc là, en fait, avec ces événements-là, il y a une tension qui fait qu'à chaque critique envers le corps arbitral, ça va être virulent. Mais des fois, je vais pas vous mentir, des fois, ça me peut mériter. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il s'est passé quelque chose avec l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Cette fois-ci, on passe d'une autre ville. On va chez l'autre Olympique, là. Et les autres, là. Bref. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Paulo Fonseca, entraîneur de l'Olympique Lyonnais, depuis quelque temps... Non, pas depuis super longtemps. En fait, ils ont changé beaucoup de fois d'entraîneur, un peu comme nous. Et là, comme Pierre Sage, il n'y a pas longtemps, c'était l'entraîneur intérim, mais comme il a fait du bon travail la saison dernière, il a évité que l'Olympique Lyonnais se fasse reléguer, tout ça, il est resté pendant un moment, et là, Textor, il a dit, je t'aime plus, ouais, tu me saoules un peu, là, ouais, vas-y, je te dégage, je t'aime plus triste, quand même. Donc, il a ramené Paulo Fonseca. Ce monsieur, waouh, vraiment, il fallait être là pour le comprendre. Donc, je vais quand même vous raconter, vous allez comprendre. Donc, tout s'est passé lors d'un Lyon-Brest le 2 mars 2025. Quelque chose qui s'est passé à la fin du match, je crois, vraiment, c'était... Est-ce que le temps était... Bon, bref, c'est pas important, c'était à la fin du match. Et il y a une décision arbitrale qui a pas plu à Fonseca. Et le monsieur a, comme qui dirait, vrillé. Et il a fait un tête contre tête avec l'arbitre. Voilà. Ce n'est pas une vanne. Évidemment, il s'est mangé son carton rouge. Mais est-ce qu'il s'est mangé son carton rouge après... Non, c'est ça. Non. Il s'est mangé son carton rouge parce qu'il a fait un tête contre tête avec l'arbitre. C'est lunaire. Voilà. C'est lunaire. En fait, Paulo Fonseca, ça a toujours été un entraîneur à sang chaud. Vraiment, il s'énerve un peu aux 3/4 de tour. Et là, en fait, il a juste complètement vrillé. Et du coup, bon, pourquoi je vous dis tout ça ? C'est parce que, ok, oui, c'est une grosse faute, tout ça, mais en fait, le tonton n'est pas intelligent. Le tonton n'est pas perspicace. Parce que lui, il a choisi de faire sa bêtise quand, à votre avis ? Une semaine après que Pablo Longoria se soit fait sanctionner pour avoir qualifié la Ligue 1 de Ligue corrompue. En tout cas, c'est bien, hein. C'est bien, Fonseca, tu choisis bien tes timings. Waouh ! Parce que je pense que si ça se serait produit en dehors de cette période de tension avec le corps arbitral et les clubs, je pense qu'il aurait pris une grosse sanction, mais pas une aussi grosse comme il a pris là maintenant. Parce que quand je vous dis qu'il en a pris une grosse, Paulo Fonseca a été suspendu 9 mois par la LFP. Donc ça veut dire qu'il est suspendu jusqu'au 30 novembre. Jusqu'au 30 novembre, il n'a pas le droit d'aller au banc de touche, dans les vestiaires, de... En fait, il a le droit de rien faire. Voilà. Mais je vous jure que s'il avait fait ça en dehors de cette période de tension, je pense pas qu'il aurait... Je pense qu'il aurait jamais pris 9 mois. Jamais, jamais, jamais. Je pense qu'il aurait pris... Je sais pas combien de temps il aurait pris. Il aurait pris quand même une grosse sanction, mais pas 9 mois. 9 mois, c'est énorme. Je crois que c'est vraiment l'une des plus grosses sanctions qu'un entraîneur s'est pris en Ligue 1. C'est waouh, énorme. Je crois qu'heureusement pour lui, pour l'instant, la sanction elle s'applique pas en Ligue Europa. C'est-à-dire qu'en Coupe d'Europe, il peut toujours être sur le banc de touche, parler aux joueurs, etc. Mais en Ligue 1, il a plus le droit d'être là. Voilà. Je sais pas où est-ce qu'il va être, dans les tribunes ou que sais-je, mais il n'a plus le droit d'être là. C'est fini. Bref, c'est la folie, hein, en Ligue 1. On est tous contents. En tout cas, je sais pas comment cette histoire elle va se finir. Je sais pas si les critiques vont être de plus en plus virulentes. En plus, là, en ce moment, il y a aussi des tensions avec DAZN. Il y a des tensions avec le diffuseur, entre les présidents eux-mêmes, enfin, entre eux-mêmes, le président de la Ligue, Vincent Labrune. Je vais pas faire de commentaires sur cet homme. Je vais vraiment pas faire de commentaires sur cet homme, parce que sinon, je vais vraiment écrire un roman. Le roman ne sera pas très sympathique. Bref, c'est bon. Assez parlé de Ligue 1. Ça fait 20 minutes que j'enregistre, ça fait 20 minutes que je parle de Ligue 1, là. Au bout d'un moment. C'est bon. J'en ai marre de parler de cette ligue à la con, là. C'est bon. Ce soir, il y a OMPSG. Franchement, je reviendrai vous faire un update de... je reviendrai vous faire un update de comment le match s'est déroulé et du résultat, etc. Mais... vous savez quoi, j'ai rien à perdre. De toute façon, tous nos adversaires qui sont en dessous de nous dans le classement, ils ont perdu ou ils ont fait nul. Donc ça veut dire qu'on est quasiment assuré de rester deuxième. En fonction des points, etc. Enfin bref, c'est un peu chiant. Donc, on n'a rien à perdre. Donc moi, si j'ai envie de dire qu'on va gagner ce soir, on va gagner ce soir. Allez hop. Moving on to rugby. Bon, c'est bon, là, c'est bon. C'est bon. On a un meeting du RN ou quoi, là, c'est bon. Quoi, je mets la Marseillaise pour vous parler du rugby? Parce que, les gars, on est champion d'Europe. On est... En fait, c'est l'équivalent, en vrai. Destination. C'est un peu l'équivalent d'une Coupe d'Europe. Bah ouais, parce que c'est que avec... On est champion d'Europe, les gars. On est sur le toit de l'Europe. On est champion Destination 2025. On a d'être ça. 2027, here we go. On arrive en Australie, on va tout déblayer. Bref, je vous parlais un peu des citations qu'on a reportées hier. On était quasi sûr de les gagner, mais quand même, c'était pas un match facile hier. C'était clairement, clairement pas facile parce que l'Écosse, c'est une équipe qui est difficile à cerner et qui. Oh, waouh! C'est bon là. J'ai redémarré la Marseillaise. C'est bon! On a compris! En plus, les supporters, ils font que de la chanter tout le match. Elle lançait aux armes, quelque chose comme ça, je sais pas.
Là, il y a ma soeur, elle est rentrée dans la pièce pour me parler de son jeu. Écoutez, juste.
Mais ça fait pas. Tu vois, c'est pas un jeu d'horreur. C'est un jeu d'horreur.
Oui.
Comment te dire, c'est... Tu vois, il y a un jeu d'horreur et il y a un jeu d'horreur. Mm-hmm. Tu vois, il y a un jeu d'horreur, vraiment, c'est juste là pour te faire des screamers.
Ouais.
Et il y a un jeu d'horreur.
Oui, bon. Ah, d'accord. Ah oui! Tout ça. D'accord.
Mais d'abord, faut que je finisse. C'est le putain de quête!
Oui, bah si t'en commençais pas une autre à chaque fois, peut-être que t'as.
Oui.
Mais non, personne t'oblige!
Mais je
vais les autres. Bah oui, c'est ça ton problème!
Bon, qu'est-ce que je disais? Donc la France est championne d'Europe, je suis grave contente. Et j'avais envie de vous parler un peu du coup de ces six nations, pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, etc. Je crois que j'en ai déjà parlé dans l'épisode 1 de ce que c'était les six nations. Dans le doute, j'ai envie de vous faire un petit résumé. Donc les six nations, c'est un tournoi européen qui se passe en février-mars sur 5 journées et qui oppose du coup les six plus grandes nations européennes, à savoir la France, l'Angleterre, l'Irlande, l'Italie, l'Écosse et le Pays de Galles. Alors je sais ce que vous allez me dire,
oui mais pourquoi il y en a que 6, pourquoi il y en a pas plus, et pourquoi c'est ces 6 pays-là, et pourquoi c'est pas d'autres,
Laissez-moi vous répondre. Déjà, les 6 pays en question, il y a beaucoup de rivalités historiques. Il y a France-Angleterre, il y a Angleterre-Écosse, il y a les 4 pays anglophones là. Déjà de base, c'était les 4 nations. C'était 4 nations et c'était les 4 nations anglophones, à savoir l'Irlande, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Angleterre. Parce que le rugby c'est un sport anglais.
Et donc après, un peu plus, quelques années plus tard, il y a la France qui rejoint, du coup ça devient les cinq nations. Voilà, on est les petits intrus, comme ça on arrive. Et dans les années 2000, ça devient les six nations, parce qu'il y a l'Italie qui rejoint. Et en fait, c'est pas sous un système de qualification quoi, c'est vraiment juste en fonction des performances européennes. Il n'y a pas de comment dire, de phase de phase qualificative, non? Oh là là. Waouh! Pas de phase de qualification comme pour la Coupe du Monde ou les Coupes d'Europe ou quoi, c'est vraiment juste... C'est des sélections historiques, voilà, c'est comme ça, c'est les six meilleures nations européennes, historiquement. Et puis voilà, il y en a qui peuvent quitter les six nations en fonction de leur performance, il y en a qui peuvent être ajoutés. Là, en ce moment, on parle un peu de rajouter un ou deux pays pour que ça devienne les sept nations ou quoi, mais dans l'ensemble, ça reste quand même fermé. Donc il n'y a pas un système de relégation ou quoi, c'est juste, c'est ces six nations-là et puis basta. Et du coup, comme je l'ai expliqué dans l'épisode 1, c'est un système de classement. Chaque équipe va s'affronter une fois, donc c'est 5 matchs. Et en fonction des victoires, des défaites, des nuls, vous récoltez des points. Et à la fin, la personne qui arrive en première, eh ben, elle remporte le tournoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et pour référence, une victoire, c'est 4 points, sans compter les bonus offensifs, défensifs. Un nul, c'est 2 points, et une défaite, c'est 0 points, logiquement. Et vous avez aussi le grand chelem, qui est du coup quand une équipe remporte tous ses matchs, et qui du coup remporte 5 points bonus. Et par exemple ce qu'on a fait en 2022, et ce qu'a fait l'Irlande aussi en 2023. Et du coup, pourquoi cette victoire, elle est si particulière? Pourquoi elle semble si unique? Il y a plusieurs points. Bon déjà, c'est parce que c'est un titre. Un titre, ça reste un titre, ça reste quand même unique, en son genre. Mais il y a eu aussi beaucoup de faits pendant cette compétition, arbitrales, blessures, etc., qui font que il y en a beaucoup qui ont douté. Et il y a aussi cette défaite contre l'Angleterre qui, franchement, ça m'a pas trop rassuré, moi. Puis la défaite, j'ai fait, comment ça tu perds contre les Anglais? Ça me plaît pas, là. Il y a eu aussi le retour de plusieurs joueurs, il y a le retour de Ntamack, il y a le retour de Dupont, il y a... Enfin, parce que Ntamack était blessé, et Dupont, il a pas fait les Six Nations l'année dernière, donc c'était quand même particulier, même si, bon, ça s'est pas très bien fini pour lui, mais... Quand même. Je vais vous faire un petit résumé de chaque match, vraiment rapide. France-Pays de Galles, franchement, pas grand-chose à dire, à part qu'on a gagné 43-0. Franchement, dans un match de rugby, c'est chaud de mettre 0 points. Genre 0. Même pas genre des pénalités, des 3 points, des conneries comme ça. 0. Mais c'est trop chaud pour moi, je trouve. Une première mi-temps du tonnerre avec un doublé de Théo Atissogbe. Et un doublé de notre petit Louis National. Louis, je t'aime. Vraiment, une petite déclaration d'amour. Même pas encore fait le résumé des autres matchs, parce que croyez-moi que j'ai pas encore fini de parler de Louis. Mais Louis... un petit fait de jeu, pas très ouf. Petit carton rouge de Ntamack à la 70e. C'était pas nécessaire, Romain. Plus jamais tu fais ça, s'il te plaît. Petit essai de Aldrit pour finir en beauté. Et voilà, 43-0 dans la poche. La chaîne, avec un match qui me fait mal. J'ai pas envie d'en parler. Les traumas, les PTSD. J'ai pas envie. Défaite contre l'Angleterre, 26-25. Vous voyez ce genre de score-là à un point près? Ça me dégoûte. Au rugby, c'est vraiment quelque chose qui me dégoûte. Ça m'énerve et ça me rapporte des PTSD à chaque fois. Vous allez me dire, mais des PTSD de quoi, frérot? Les PTSD de la Coupe du Monde, pardi. Bref, franchement, pendant ce match, on pouvait que s'en prendre à nous-mêmes parce que il y avait tellement d'imprécisions au niveau des finitions, au niveau des passes, des prises de balles. C'était vraiment chaotique. Et est-ce qu'il y avait un problème d'indiscipline dans mes souvenirs? Pas tant que ça, mais c'était surtout la finition qui était vraiment dérangeante. J'avais pas... En fait, vraiment, c'était tellement dérangeant. J'avais pas envie d'entendre que ce jour-là, il pleuvait. J'avais pas envie d'entendre « machin, il pleuvait tout ». Vous êtes des joueurs de rugby, vous jouez dans la boue. D'accord? Me parlez pas de pluie, machin, ça adhère pas là. Tu t'adaptes. Je m'en fous. Bref, on a perdu sur le fil. Et c'était chaud. Voilà, c'était chiant, ça m'a foutu la haine. Et je vais pas vous mentir, à ce moment-là, j'étais en mode « Non mais on va vraiment retomber dans nos travers. C'est ça qui va se passer ?» Eh ben non, parce que juste après, on a gagné 73-24 contre l'Italie. Après, tu me diras, c'est l'Italie... Bon, loin de là, mon envie de dénigrer les Italiens, même si...
un coup quand la pizza. Mais bon, voilà, c'est pas non plus en ce moment, c'est pas la folie. Donc première mi-temps de zinzin, voilà, essai de notamment Movaca, Dupont, Guillard, Boudéan national, on l'aime. Léo Barret a fait un tournoi magnifico, incroyable. Ensuite, j'allais dire deuxième mi-temps un peu plus chill, mais en fait non. Non, c'était tout aussi chaotique. Essai de Dupont, Biel Barré, Aldritz, encore Barré, doublé de Barré, c'est vrai, il avait mis un doublé. Oh, quand je vous dis ce match-là. Atisogbe encore, Atisogbe aussi. Vraiment un joueur qu'il faut il faut l'observer. Pas juste en mode ah ouais, un joueur qui s'appelle. Regardez-le, c'est important. Voilà, un petit match en détente, petite victoire importante quand même, parce que après la défaite contre l'Angleterre, on avait un peu perdu espoir. Donc voilà, ça redonnait du baume au cœur, mais le vrai match qu'on attendait, le vrai de vrai de vrai, c'était évidemment le match contre l'Irlande, les tenants du titre. Irlande-France. Vraiment, on avait tous peur parce qu'on s'est dit, après la défaite contre l'Angleterre, est-ce que nos Français, est-ce que nos Bleus sont vraiment au niveau? Est-ce qu'on est vraiment prêt à les affronter, etc., etc. La première mi-temps, franchement, elle était poussive. Elle était compliquée, très compliquée. Physiquement, c'était dur, c'était très dur. Le score était tout petit. Et en plus de ça, blessure de Antoine Dupont. Je vous jure, quand mon daron, il a vu blessure d'Antoine Dupont, il a vu qu'il se tenait le genou, il a dit « Allez, c'est fini ». Il a dit « C'est fini, ça y est, c'est bon. Moi, je me casse. » J'étais dépitée, je vous jure, je regardais ma télé, j'étais figée, j'étais en mode non, pitié, pas mon pire cauchemar, parce que c'est vraiment mon pire cauchemar le fait qu'il se fait les croisés. Il s'est déjà fait les croisés en 2018 sur le même genou, mais quand même, j'étais en mode non, non, pitié. Malheureusement, si, on apprendra plus tard, après le match, le lendemain, que c'est évidemment les croisés du tonnerre. Voilà, on est grave heureux, ha ha ha. Donc première mi-temps compliquée, voilà, c'est pas passé grand-chose. Physiquement, c'était dur. Mi-temps 6 à 8 pour nous. C'était vraiment tendu. Mais on revient à la charge en deuxième mi-temps. Et là, je vois une équipe de France métamorphosée avec un coaching qui pour le coup, vraiment, je n'aime pas Galtier. Hein. Je n'aime pas Galtier. Mais son coaching, franchement, je m'excuse. Parce qu'en vrai, j'ai beaucoup critiqué Galtier pour de bonnes raisons, je trouve. Parce qu'en vrai, bah, je lui en veux encore quand même. Mais j'ai quand même l'impression que c'est pas exactement le même coach que genre un Didier Deschamps, tu vois. Parce que Didier Deschamps, à la limite... Non, en fait, c'est un peu la même chose. J'avais envie de le défendre un peu, mais en fait, non. Toujours pas sa manière de faire, de prendre des décisions et de pas s'expliquer et de juste dire « Ouais, ok. » Mais en fait, ce qui me fait chier, c'est qu'après, ses décisions, eh ben, elles portent ses fruits. Ça me saoule. Sauf pour quelques-unes, quand même. Qui me laisse quand même... bon. Mais, par exemple, pour le fait de mettre un banc en 7-1. Un banc en 7-1, je vais vous expliquer avec mes mots à moi. D'accord. Un banc en 7-1, en gros, c'est un banc qui est constitué de 7 avant et de 1 3 quarts. Pourquoi ça a été critiqué? C'est-à-dire que si tu perds ton 3 quarts sur le terrain, il t'en reste 1. Après, t'es foutu. Non, mais en gros, c'est une stratégie qui vise à tout miser sur le physique, tout miser sur l'intensité physique. Et ça peut marcher sur certaines équipes, mais il faut vraiment avoir un sacré paquet, quoi. faut vraiment y aller, quoi. Faut vraiment être sûr de soi. C'est généralement utilisé par des équipes qui ont justement des joueurs qui sont physiquement très dominants, comme par exemple l'Afrique du Sud, qu'il a utilisé en finale contre la Nouvelle-Zélande, qui leur a permis de remporter la coupe. J'ai encore la haine. C'est une stratégie qui peut être payante si t'es convaincu et t'as confiance en tes capacités physiques et en ton 3 quarts. Mais ça peut être très risqué parce que si tu perds ton 3 quarts sur le terrain, bah t'as pas beaucoup d'options pour le remplacer, t'en as qu'une seule. Ça veut dire que si même ton remplaçant il finit par se blesser aussi, bah t'as plus rien, t'as plus d'options. Et du coup, si t'as plus beaucoup d'options, bah tu seras obligé de mettre un joueur
qui a un poste qui n'est pas forcément son poste de prédilection, voire loin de là. Et du coup, bah, ça va créer un déséquilibre. Et c'est pas recommandé d'être déséquilibré dans ce genre de sport. Bref, il faut vraiment être confiant. Il faut vraiment avoir confiance en son bloc d'avant pour mettre en place ce genre de stratégie. Et franchement, je tiens à m'excuser. Parce que vraiment, j'ai eu peur pendant un moment face à l'Irlande parce qu'il a mis en place un truc, un 7-1. Ça, je suis en mode, tu es vraiment sûr de ton coup, Galtis? Est-ce que tu es vraiment sûr de ton coup? Bien, pour le coup, il avait raison parce que ça a porté ses fruits. La France a gagné contre l'Irlande. Et il y en a beaucoup qui disent, bon, ça a été aussi boosté par le fait que Dupont s'est blessé grièvement parce que oui, il a... Attendez, c'est dur, je suis une femme en deuil, d'accord? Je suis endeuillée. Rupture des ligaments croisés. Parce qu'un gros Irlandais, il s'est assis sur son genou. D'accord? Il s'est allongé sur son genou, vous m'entendez ou pas? Après, il y a eu beaucoup de spéculations qui disent, oui, il a fait exprès, il a vu son genou, il s'est mis dessus. Mais non, en fait, c'est son joueur derrière qui l'a poussé à se mettre comme ça, patati patata. Enfin, beaucoup de spéculations au final, dans tous les cas, en fait, moi, c'est mon avis, hein. Moi, personnellement, je m'en fiche, parce qu'en tout cas, il est blessé. D'accord. C'est pas parce que un tel il va se faire sanctionner, un tel il se fait pas sanctionner. En fait, je m'en fous. Parce que dans tous les cas, son genou il va pas repousser, son ligament il va pas repousser en fait. Voilà. Donc vous pouvez déblatérer pendant longtemps. Dans tous les cas, en plus on se fait avoir jusqu'au bout. Donc bon, on savait que même en les citant auprès du conseil de discipline, de conneries, de machin là, ils allaient rien avoir. Et c'est ce qui s'est passé, ils n'ont rien eu. Donc bon, je vois pas pourquoi on crie au scandale alors que finalement ce qui est fait est fait. Donc bon, je sais pas, c'est mon avis. Donc bon, dans tous les cas, on a gagné le match avec, caractère, avec talent, 42 à 27. Un match qui de base n'était pas en notre faveur, on n'était pas forcément les favoris du match. Et finalement, en fait, cette blessure nous a donné un boost mental. Et ça a permis à l'équipe de remporter ce match haut la main. Et c'est donc une étape. One etapo. Quoi? Step left before the trophy. Une étape qui restait avant le trophée, avant le potentiel trophée, c'était si on gagnait contre l'Écosse. Voilà. Enfin, il y avait plusieurs scénarios. Parce qu'en fait, les trois premiers, c'était nous, l'Angleterre et l'Irlande. Et du coup, c'était en fonction de oui, si, un tel, il... Enfin, on faisait un peu des maths. Voilà. Là, c'était le moment où il faut sortir la calculette et pour compter les points. Parce qu'en fonction de si lui, il gagne avec un bonus, si lui, il perd, si lui... Mais en vrai, de vrai, on était quasiment assurés de gagner le tournoi parce que peu importe si l'Angleterre et l'Irlande gagnaient, on avait tellement une marge de points au goal average... Que même si on finissait à égalité en termes de points, bah le goal average nous permettait de passer au-dessus. Quoi. Le goal average, c'est les points, c'est la différence de points en fait. La différence de points marqués pendant un match, pas les points de classement. Oh, ça commence à devenir compliqué là. Donc France-Écosse, une équipe d'Écosse qu'il fallait pas sous-estimer, hein, parce que le début du match il était compliqué, hein, moi je vous le dis. Hein. On a la cravaché, c'était comme l'Irlande un peu. C'était. Franchement, c'était pas un match parfait, parce qu'il y a eu beaucoup d'indisciplines, hein, Mouvaka, Gros, etc. Mais physiquement, c'était pareil, en fait. Physiquement, c'était compliqué la première mi-temps. C'était serré de fou. Le match était vraiment serré. Carrément, on a fini à 16 à 13... Non, au bout d'un moment, on était à 13 partout. Et juste avant, on met une pénalité, du coup, ça nous fait à 16-13. Eux, ils marquent un essai qui, finalement, a été annulé. Donc ça finit vraiment à 16-13 à la mi-temps. C'était serré de fou. Et après, il y a eu les remplacements, etc. Et finalement, on est revenu dans notre match. Et en deuxième mi-temps, on met 3 essais, ce qui nous permet de gagner 35 à 16. Est-ce que c'est pas beau, ça? L'Écosse, c'est une très bonne équipe. C'est juste que, en fait, quand ils commencent à être dominés, je trouve qu'ils paniquent beaucoup avec le ballon. Et ça fait que ils sont... C'est-à-dire, au début du match, vraiment la première mi-temps, ils étaient en place. Ils étaient organisés. Vraiment, ça allait vite. Ils étaient rapides. Vraiment, c'était compliqué pour les arrêter. En deuxième mi-temps, on a commencé à les dominer. Je sais pas si c'est... Non, c'est vraiment ça. En fait, on a commencé à les dominer. On a marqué un essai, puis la transformation, puis un autre essai, puis... En fait, on a commencé à un peu plus les dominer. Et c'est là qu'ils ont commencé à faire... Il y a un souci, là. Mais ça reste quand même une très bonne équipe. Et je suis contente que le tournoi se soit fini avec eux, plutôt qu'avec une petite équipe du genre Pays de Galles. Ça aurait été chiant. Là, il y avait un peu plus d'adversité, quand même. C'était compliqué, mais c'était mérité, quand même. Essai, j'ai même pas précisé. Essai de Moefana, de Louis, encore Louis Bielbiaré. Essai... doublé de Moefana, c'est vrai, ça. C'est vrai, c'est vrai. Oh, j'ai déjà oublié. Ah oui, le carton de Movaka, j'aimerais en parler aussi. Carton de Movaka qui est en train un peu de faire polémique là en ce moment dans les pays anglophones. Qui, en vrai, s'apparentait plus à un rouge qu'à un jaune. Même si, bon, maintenant, le rouge va devenir un rouge de 20 minutes. Ce qui, je trouve, est un peu con. Parce que ça enlève un peu... Ça enlève un peu de poids dans le sens où tu te dis ouais maintenant c'est que 20 minutes mais quand même tu vois genre c'était plus intéressant le fait d'avoir un rouge définitif. Là on a eu un jaune parce qu'en fait c'était un jaune sauf qu'après c'est un jaune qui est encore en évaluation pour savoir s'il va se transformer en rouge. Et en fait ce qu'il a fait pour vous mettre un peu en contexte, il a mis un coup de tête à un Irlandais. Bon, vous allez dire un Irlandais n'importe quoi, oh là là. Un écossais. Il a mis un coup de tête à un écossais. Pas un coup de tête en mode de Zizou. C'est un coup de tête au sol. En gros, il était au sol et il s'est relevé. Bon, bref. C'était un coup dans la tête, dans le visage de l'écossais. Ça, généralement, c'est rouge. Sans discussion. Mais là, apparemment, c'est jaune. Mais honnêtement, moi, je vais vous dire un truc. On s'est tellement fait couiller par l'arbitrage. Que franchement, je vais pas me plaindre. Et je vais pas dire machin. Franchement, je le prends. De toute façon, évidemment que je le prends. On est champions, frère. Au bout d'un moment. Je viens de me rappeler, à la mi-temps, on a eu la chanson de Louane. La chanson qu'elle va présenter à l'Eurovision. Franchement, c'est une bonne chanson. Moi, j'ai bien aimé. Est-ce que ça va rivaliser à l'Eurovision? Ça, je sais pas. Mais, bonne chanson. Moi, j'ai bien aimé. Et donc, voilà. Après cette victoire 35-16 contre les Écossais, la France remporte son 27e tournoi des 6 nations. Et le premier depuis 2022. Parce que oui, 2023, on n'a pas eu. 2024, on n'a pas eu. 2025, c'est nous. Ah oui, d'ailleurs, toute la soirée, ça parlait de ouais, premier titre, année impair. Mon pote était là en train de m'envoyer des messages en mode mais pourquoi ça parle d'année impair? C'est pas tous les ans les 6 nations. Et j'étais en mode. Hein? Qu'est-ce que tu me racontes? Et en fait, c'est le premier titre de l'équipe de France en année impair depuis 2007. En fait, cette stat, elle me tabasse. Vraiment, je sais pas quoi faire de cette stat. Genre vraiment, ils nous l'ont répété toute la soirée. J'étais en mode, ok, d'accord, c'est bien. C'est quoi le rapport? Enfin, je veux dire, est-ce que ça a son importance? Je ne sais pas. Peut-être que ça a son importance. Auquel cas, je ne suis pas au courant. Auquel cas, souris. Mais pour le coup, ça me fait rire. Non, j'ai envie de vous parler un peu des joueurs qui m'ont marqué. Franchement, c'est pas dans l'ordre. D'accord, c'est pas une liste en mode classement 1, 2, 3, 4, 5. C'est juste des joueurs que j'ai bien aimé, du moins pendant le tournoi. Alors, déjà Louis. Louis Diabéré, qui joue à Bordeaux. Incroyable. Un futur. Franchement, ça parle déjà, pour vous dire, hein, il a mon âge. Ça parle déjà de futur meilleur joueur du monde. Franchement, sans forcer, oui. Sans forcer, oui. Vraiment, ce gars sait tout faire. Il est bon en défense, il est bon en attaque, il est bon en passe, il est bon partout. Il est rapide. Vraiment, la France peut dormir en paix parce qu'elle sait qu'elle a Louis Bielbiaré dans ses rangs. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, évidemment, Thomas Ramos, le patron. D'ailleurs, match contre l'Écosse, je trouve qu'ils ont vraiment beaucoup donné des stats. Parce qu'en fait, il était vraiment à... Je sais plus combien de transformations précisément de battre le record de Michalak. Mais il est devenu, après ce match, le meilleur marqueur de l'équipe de France. Et ça, franchement, GG à toi. J'aime beaucoup Thomas. J'aime beaucoup ce joueur, un joueur exceptionnel qui fait la différence. Et voilà, il méritait d'être dans la liste. Après, il y a Moefana. Pareil, rien à dire. Franchement, belle révélation. Et je trouvais qu'il était d'ailleurs sous-coté à certains moments. Et c'est bien le fait qu'il se soit révélé pendant pendant ce tournoi. Y a qui d'autre encore ? Boudéan. J'ai envie de parler de Boudéan. Voilà, c'est mon petit chouchou. Oh, les joueurs de La Rochelle, franchement. Vous êtes d'être ça. Antonio, le tonton. Moi, j'ai une pensée pour Antonio. Antonio, ou Winnie Antonio. 34 ans. Il tient encore la baraque. Il a été titulaire sur quasiment tous les matchs. C'est dur, hein, physiquement, c'est dur. Ça commence à pousser. Mais c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et c'est le tonton, là. C'est l'ancienneté, voilà, c'est la bac. Mais est-ce qu'une porte grince comme ça? En fait, oh, ma porte, c'est de pire en pire. Vraiment, elle s'ouvre. On dit, on est dans un manoir. Bref, le tonton Antonio, j'avais envie d'en parler parce que, voilà, c'est l'ancienneté. En plus, hier, il m'a fait un peu de peine parce que je l'ai vu physiquement. Vraiment, c'était dur. Ça a poussé. Et c'est normal parce que les enfants, ils sont énormément sollicités, là, dans ce système de 7-1, là, dont je vous ai parlé. C'est pas facile, mais bon, il a quand même tenu la baraque et franchement, il faut respecter ça. Et évidemment, Penaud, voilà, battu le record lui aussi. Attends, il a battu ou il a égalisé? Non, il a battu, je crois. Il l'a pas encore battu. Mais il s'est rapproché. Je sais plus. Mais en tout cas, Penaud, toi aussi. Et je crois que Biel-Biarré aussi, il a égalisé un record de 8 essais en tournoi. Enfin, pendant le tournoi de destination, je crois que c'est un tournoi qui est vie. Oh là là, je suis fatiguée là. Ça fait 45 minutes que j'enregistre. J'en peux plus, je suis fatiguée, d'accord. Non, ça fait même plus d'une heure que j'enregistre. Qu'est-ce que je disais? Wouah! C'est un record qui est vieux de 100 ans et le record en question, c'est marquer 8 essais en tournoi destination. Voilà, c'est bon, je vais y arriver. Je vais y arriver. Il y a eu aussi Léo Barré dont j'ai parlé à l'heure, un petit peu vite fait. Enfin bref, il y a eu énormément de joueurs qui se sont dévoilés pendant ce tournoi et j'en suis très heureuse. Et il y a aussi le fait que on a gagné le tournoi aussi chez les U20. Donc vraiment, en fait, la génération, notre génération de rugby en France, franchement, je m'en fais pas. On a tellement de talents qui s'apprêtent à émerger que franchement, je m'en fais pas du tout. Les anciens peuvent aller dormir en paix. Pas que j'ai envie qu'ils partent, hein. Attention. Juste, vous pouvez vous reposer un peu. Voilà, tournoi gagné, je suis très contente de l'équipe, je suis très contente des joueurs. Je m'excuse un peu auprès de Fabien Gatté, envers qui j'ai émis beaucoup de critiques. Dans ma tête. Dans ma tête. Mais quoique, non. Je crois qu'à l'épisode 1 du Move Report, je crois que j'ai parlé un peu de lui. Franchement, je suis plus trop sûre de rien parce que là, je suis fatiguée et en plus, j'ai des choses à faire. Donc, je vais conclure ici. Là, j'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, encore une fois, mettez un petit commentaire. Je crois que normalement, j'ai réglé le problème des commentaires parce que je crois qu'il y avait un souci. Les gens ne pouvaient pas mettre des commentaires ou alors du moins, il fallait que ce soit vérifié, je sais pas quoi. Bref, vous pouvez mettre des commentaires. Notez le podcast, évidemment, c'est important pour moi. Partagez-le s'il vous intéresse, si vous connaissez des gens qui sont intéressés. Qui connaissent pas trop le sport et qui du coup commencent un peu à s'y mettre mais qui aimeraient avoir quelqu'un qui en parle de manière un peu plus simplifiée. Voilà, je suis votre meilleure amie. Si vous aimez les podcasts, si vous connaissez quelqu'un qui aime les podcasts sur la musique, sur le sport, etc., proposez-lui. Franchement, vous êtes mon meilleur allié en ce qui concerne ce podcast. Il est tellement petit que vous êtes mon allié le plus fort. Les partages, c'est super important. Donc voilà, je vous souhaite une agréable journée et buvez de l'eau si vous le pouvez parce que c'est le ramadan là. Buvez de l'eau et soyez heureux en vrai de vrai. Faites ce qui vous plaît et ne portez pas trop attention au regard des gens parce que vraiment c'est ça qui va vous détruire. Et franchement, vivez votre vie comme vous l'entendez. Croquez la vie à pleines dents. Voilà. Encore une fois, si vous le pouvez, parce que c'est le ramadan. Bisous!